Mola Archives Sonores.
Mais je crois que, Jean, c'est la première fois que vous consacrez un ouvrage à Montaigne et Montaigne à cheval. Alors peut-être pour la petite histoire, pour débuter, nous dire comment est né cet ouvrage.
En tant que Bordelais et élève de la faculté des lettres de l'université de Bordeaux, d'abord, je crois que je n'ai pas dit messieurs, dames, chers messieurs, chers amis. Montaigne m'occupe trop fort. J'ai donc un minimum de relations originelles, si l'on peut dire, avec Michel de Montaigne. Je ne peux pas dire que chez mes maîtres jésuites de Tivoli, on ait mis l'accent particulièrement sur Montaigne. Encore que Montaigne fut un ami des jésuites. Mais chez les jésuites, on enseignait volontiers Pascal, qui était beaucoup moins ami de la compagnie, ou Voltaire, qui ne l'était pas davantage, que Montaigne, qui avait manifesté à diverses reprises son goût pour la compagnie et qui avait un grand ami jésuite, le grand Jean Maldona, ou Juan Maldonado, d'origine. Mais enfin, bon... Montaigne, j'ai dû faire 3 ou 4 dissertations dans ma vie sur lui. J'ai eu l'occasion, comme d'autres, de le lire, mais c'était toujours les mêmes chapitres sur l'éducation, sur la Boétie, sur les coches, sur un certain nombre de problèmes, mais d'une façon assez limitée. Et... Bien, je n'étais pas ce qu'on appelle un montaigniste, je ne me promenais pas, comme certains, en voyage avec un exemplaire froissé des essais dans ma poche. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Quand on parlait de Montaigne, j'avais tendance à dire d'un air un peu farot que j'étais bordelais. Je crois que j'ajoutais pas moi aussi quand même, c'est un peu fort. Mais bref, une certaine fraternité, une certaine... sens de la descendance, mais sans plus. Et puis, il y a quelques années, il y a 3 ans, ou 2 ans et demi, ou 3 ans, j'ai fait, avec ma femme et mon amie Catherine, j'ai fait un voyage, c'est le 4e ou le 5e, je crois, à Montaigne, comme ça, pour aller revisiter la tour du château, puisque cette tour... Elle nous a été merveilleusement préservée par le grand incendie de 1885, où le château de Montaigne a brûlé, mais la tour a été préservée, la tour où survit le génie de Montaigne, la chambre, la chapelle, la librairie, bref, tout ce qu'on aime tendrement, même quand on n'est pas un grand montaigniste. Et j'ai été frappé pendant cette visite de la tour et du parc alentour, sur la terrasse magnifique, où on a une si belle vue. J'ai été frappé par ce qu'on appelle les cartels en muséologie, enfin les inscriptions ici ou là, qui vous guident dans la visite, qui sont, si j'ai bien compris, rédigées par un homme délicieux et savant qui s'appelle Jacques de Feytaud, longtemps enseignant à Bordeaux, maintenant à la retraite à Podensac, qui a écrit de très nombreux articles sur Montaigne dans la revue, le bulletin des amis, la Société des Amis de Montaigne. Et ces petits textes sur Montaigne, pendant cette visite, sont merveilleusement éclairants. Et ils ont l'avantage d'éclairer, non pas tellement sur la pensée de Montaigne, sur lequel on a beaucoup écrit, et que je ne prétends certes pas renouveler, très loin de là, mais sur la vie de Montaigne, sur sa vie privée, intéressante, mais surtout sur sa vie publique, à travers son siècle. Et je n'avais jamais tant réalisé que ce jour-là à quel point Montaigne avait été un acteur de son temps, avait été un homme qui, d'abord... chez lui, à Montaigne, dans un environnement extrêmement intéressant, puisqu'il était là, lui, catholique, né d'une famille catholique, dans un environnement assez largement protestants que les gens depuis Bergerac, Libourne, dans ce grand axe qui unit Montauban à La Rochelle et qui en dessous fait une demi-lune vers Nérac et vers Pau, en pays où les protestants étaient nombreux, actifs, et où il a vécu, lui catholique, de parents catholiques, bien que sa mère fût d'origine juive, mais rattachée au catholicisme et pratiquant le catholicisme. Et je me suis aperçu que cet homme avait eu une vie très, par moments dramatique, quelquefois tragique, non seulement parce qu'il habitait en un lieu de conflit religieux qui était exactement politico-religieux, quelquefois plus politique, quelquefois plus religieux, qu'il avait assumé ce destin de catholique en milieu assez largement protestant, à un moment où la coexistence n'était pas du tout établie, très loin de là, puisque n'oublions pas que quand il s'est réinstallé vraiment à Montaigne après ses fonctions de magistrat à Bordeaux, il s'est réinstallé à Montaigne à la fin des années 1567-68, que 4 ans plus tard, c'est la Saint-Barthélemy, et qu'il commence à rédiger les essais à peu près à l'époque de la Saint-Barthélemy. Et la Saint-Barthélemy, c'est pas seulement Paris, c'est pas seulement la reine Margot, c'est pas seulement le film fort beau d'ailleurs de Patrice Chéreau, c'est pas seulement un événement national immense, c'est la Saint-Barthélemy bordelaise, car la Saint-Barthélemy, c'est le 24 août à Paris, mais le 2 et 3 octobre à Bordeaux, il y a une Saint-Barthélemy bordelaise plus limitée, mais enfin, quand même, un vrai massacre. Montaigne a vécu au milieu de tout ça. Et donc, il a été un homme secoué par les orages de son temps, des orages qui, quelquefois, lui étaient le concernaient directement. Au cours de la Saint-Barthélemy bordelaise, plusieurs de ses amis ont été parmi les massacreurs, en tout cas de ses apparentés, et des amis, magistrats notamment, parmi les massacrés. Donc, il vit dans une tragédie permanente. Et non seulement cela, mais il a très souvent accepté des missions très périlleuses. Non seulement la mairie de Bordeaux, en 1981-82, puis 83-84, jusqu'en 85, il a accepté d'être maire de Bordeaux, alors que il avait déjà eu des fonctions plus ou moins périlleuses, mais la mairie de Bordeaux à cette époque-là, je ne dis pas qu'elle est facile à assumer aujourd'hui, mais on se massacre relativement peu à Bordeaux et dans la région aujourd'hui, alors qu'en 1581, 82, 83, 84, c'est-à-dire que c'était les couteaux tirés, c'est-à-dire que Bordeaux était une ville à forte domination catholique, mais avec une importante population protestante. Bordeaux avait un lieutenant du roi, il y avait le maire de Bordeaux, donc Montaigne, et je vais dire pourquoi, et puis à côté de lui, le lieutenant du roi pour Bordeaux, le maréchal de Matignon, personnage puissant, considérable, très proche du souverain, Henri III et Catherine de Médicis, mais Bordeaux était en Guyenne, qui avait un gouverneur qui s'appelait Henri de Navarre, protestant. Et ce Henri de Navarre, le futur Nouste Henrik, notre futur roi Henri, était interdit de séjour à Bordeaux. Il était gouverneur de la Guyenne, mais il ne pouvait pas entrer dans Bordeaux parce que les catholiques Bordeaux lui refusaient l'entrée. Et dans ces conditions-là, être maire de Bordeaux, entre le lieutenant du roi Matignon catholique et le gouverneur de Guyenne protestant, qui ne pouvait pas entrer, mais il avait une activité très grande dans la périphérie, très très grande. Et il était souverain de Navarre. Et à Nérac, pas très loin de Bordeaux, il régnait avec sa femme Margot, et qu'il avait des rapports très compliqués, puisqu'il lui arrivait à Margot de s'emparer d'Agen. Et Margot, catholique, s'emparer d'Agen sous le nez, si l'on peut dire, long d'ailleurs, de son mari Henri. Alors, tout ça faisait des situations extraordinairement dramatiques. Et en 1580, Montaigne en voyage en Italie, où il prend les eaux, entre autres choses, reçoit notification de son ami bordelais, Monsieur de Tauzin, qui vient d'être élu maire de Bordeaux. Élu par les six jurats et par quelques notables. Oui, élu, mais surtout désigné par le roi Henri III et sa mère, Catherine de Médicis, qui ont compris que dans cette situation horriblement dramatique et compliquée à Bordeaux, il fallait un homme de sagesse, de prestige aussi, un homme qui soit capable de faire entendre aux uns et aux autres qu'il y a de meilleures façons de cohabiter entre religions différentes que de s'étriper à longueur de journée. Et Montaigne a donc été un peu plus que proposé au notable bordelais, alors qu'il était en voyage très loin de là, en Italie, et depuis des mois et des mois, depuis 16-17 mois, la cour a fait savoir au notable bordelais qu'il serait bien, vu qu'il choisisse Michel de Montaigne, qui en surplus vient de publier les deux premiers tomes des Essais, qui est un personnage prestigieux, respectable, fils de l'ancien maire de Bordeaux. Enfin, il y avait toute une série de raisons pour cela. Montaigne n'était pas très très enthousiaste de venir se mettre dans ce bain de violence, mais il a reçu une lettre du roi Henri III qui mérite d'être lue, parce que le roi Henri lui dit, c'est-à-dire que c'est une désignation qu'il n'est pas question de discuter. Et la monarchie, à cette époque, elle n'est pas tout à fait comme sous Louis XIV, mais quand même, c'est la monarchie absolue. On ne discute pas un ordre du roi. Donc Montaigne, à petites étapes, sans se précipiter, est rentré à Bordeaux pour prendre la mairie de Bordeaux, ce qu'il a fait quelques mois plus tard. Dans la première mairie, il n'a pas eu trop de problèmes. Il en a eu l'hiver compliqué sur le plan de l'acheminement des vivres dans Bordeaux, parce que les protestants, ici ou là, pouvaient contrôler le cours de la Garonne et qu'ils ne s'en privaient pas, puisqu'on les traitait mal à Bordeaux. Ils faisaient peser des petits blocus, ici ou là. Alors, il y avait des négociations, là. Il y avait des problèmes avec les jésuites bordelais, parce qu'il s'occupait assez mal de l'hospice des enfants de Bordeaux. On en avait laissé mourir quelques-uns. Alors Montaigne, bien qu'il fût ami des jésuites, a eu maille à partir, d'une certaine façon, avec eux, à cause de l'hospice. Il y a eu toute une série de problèmes dans la première mairie, le mandat n'était que de 2 ans à cette époque. Mais il a été réélu maire. Et alors la réélection, là, il a eu des problèmes intenses, parce que la Sainte Ligue catholique avait envie de contrôler Bordeaux, souhaitait contrôler Bordeaux, où existait une forte majorité catholique. Et Montaigne considérait que c'était dangereux que Bordeaux tombât entre les mains de la Ligue. Non pas qu'il ne fût pas catholique, mais qu'il trouvait que la Ligue avait une façon assez singulière d'être catholique, et notamment qu'elle était entretenue financièrement par la couronne d'Espagne. Et que une ville qui serait entre les mains de l'or espagnol, il y avait qu'elle a quelques dangers, d'autant que Bordeaux n'est pas très loin de l'Espagne, que le roi d'Espagne de l'époque était Philippe II, très grand souverain, qui avait été un temps mari de Marie Tudor en Angleterre, et que, puisqu'il avait envoyé l'invincible Armada, qui n'était pas invincible comme la suite de l'histoire l'a montré, mais enfin c'était l'Angleterre, hein, mais la flotte française était un peu moins puissante que la flotte anglaise, et que s'il y avait des amis à la mairie de Bordeaux, des amis de l'Espagne qui étaient stipendiés par l'Espagne, il y aurait peut-être une raison que la flotte espagnole pénétrât en Gironde jusqu'à Bordeaux, et qu'alors vraiment la plus puissante monarchie de l'époque, plus puissante que la française à cette époque, à la fin du XVIe siècle, riche de l'or des Amériques. Là, Philippe II, pénétrant à Bordeaux avec sa flotte, ça posait des problèmes pour l'unité nationale française, alors qui était très, très, très en question à cette époque. Bref, se jouaient à Bordeaux, entre 83 et 84, des problèmes fondamentaux. Et pour la suite de la vie de Bordeaux, la vie de la monarchie française, il y avait là un enjeu fondamental, et Montaigne et son ami le maréchal de Matignon ont joué pendant ces deux années, 83-84, un rôle, semble-t-il, historique très important que, à vrai dire, je ne connaissais pas du tout, ou presque très peu, avant de me lancer dans la rédaction de ce livre. Comme toujours, vous savez, les livres, on apprend quelque chose à ceux qui vous lisent, mais on commence surtout par s'instruire soi-même. Et je dois dire que j'en ai appris beaucoup et que je l'ai communiqué plus ou moins bien à mes lecteurs ou futurs lecteurs. Mais en tout cas, j'ai découvert que le sage, le tranquille, le savant, Montaigne avait aussi été un courageux, un lucide et quelquefois héroïque Montaigne. Et que pour notre ville et pour notre pays, ce n'était pas indifférent. Alors, j'ai commencé par lire les excellentes inscriptions du château de Montaigne. Et il m'a paru que c'était intéressant de le raconter d'une façon un peu plus abondante, peut-être que sur ces quelques inscriptions du château. Je me suis, et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de ce titre, « Il vaut ce qu'il vaut ». Montaigne à cheval m'a paru être définir assez bien ce que pourrait être mon entreprise. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit un livre pour faire suite à un titre. Et en général, le titre, c'est ce qui arrive le dernier dans un livre. C'est d'ailleurs assez logique, puisque on ne peut trouver le titre qu'après avoir complété. Il vient comme une sorte de synthèse de tout ce qu'on a écrit dans ce livre, au bout de quelques dizaines, centaines, plutôt ciel, milliers de pages, quelquefois. Et là, eh bien, j'ai trouvé un titre, et puis, puisque j'avais trouvé un titre qui m'avait paru bon, j'ai essayé de compléter par la rédaction du livre qui a suivi. La genèse, si on peut dire, mais je me suis déjà lancé au cœur de mon sujet. Je connais assez Guy Perraudeau pour savoir qu'il va me relancer beaucoup mieux.
Alors avant qu'on parte à cheval, Jean, peut-être serait-il... Il y a deux petites questions, moi, que j'ai découvertes dans votre livre. La première, vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu la vie intime de Montaigne, et en particulier, vous avez dit qu'il était catholique, etc. Or, il y a plusieurs pages dans votre livre où vous mettez qu'il y a un certain doute sur la religion juive qui lui était apportée du côté de sa mère par les protestants qui étaient tout près de lui. Et il est catholique, il s'affirme catholique, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a quelques tendances, soit vers le judaïsme, soit vers le protestantisme?
Alors, je crois qu'on peut d'emblée écarter de son univers spirituel, intellectuel, culturel, le judaïsme. Sa mère était d'origine juive, espagnole, c'était une famille qui venait de Saragosse, qui s'était convertie quelques dizaines d'années auparavant au catholicisme, librement ou pas librement. Sous quelle pression, on ne le sait pas, mais en tout cas, quand ils sont arrivés, ils ont quitté l'Espagne. Des gens qui s'appelaient Lopez, puis Lopez de Villanueva, sont venus s'installer à Toulouse sous le nom de Loupe, démarqué de Lopez, bien entendu, et qu'à Toulouse, ils ont prospéré excellemment, au point que l'un des Lopez de Villanueva est devenu capitoul, c'est-à-dire le maire collectif de Toulouse, donc une famille déjà très importante, très inscrite dans la société française, à cette époque, au début du siècle, avant Luther et avant Calvin, catholiques. Les Lopez sont devenus catholiques. On dit Marane, on ne dit pas Marane. Les Maranes sont en général ceux qui s'étaient convertis au catholicisme sous des pressions quelquefois très cruelles et très violentes, mais avec une certaine pratique juive, secrète, chez les Maranes. Il ne semble pas que chez les Lopez ou Loupe de Villanueva, c'était le cas. Ils étaient convertis au catholicisme et ont été, à partir du tout début du XVIe siècle, des catholiques classiques, si l'on peut dire. D'autant qu'à Toulouse, ville à forte dominante dominicaine sur le plan religieux, où Saint-Dominique était venu, où avait été d'une certaine façon fondé ou refondé en France l'ordre de Saint-Dominique, qui était très lié à l'Inquisition, Toulouse était une ville où cette question n'était pas à passer sous silence. C'est-à-dire que il y a eu très peu de problèmes à propos des Juifs à Bordeaux, et il y a eu une grande et très fameuse, très, très éclatante communauté juive à Bordeaux, surtout au XVIIIe siècle. À Toulouse, c'était le rapport judaïsme-catholicisme était plus compliqué. À Toulouse, il semble qu'il n'y ait pas eu de problème pour la famille de la mère de Montaigne, Antoinette. Antoinette a d'ailleurs eu une grand-mère et une mère catholique, des gens d'Albi. Alors, est-ce que sur le plan de la pratique religieuse juive, le fait d'avoir une grand-mère catholique, puisque la religion se transmet par les femmes, est-ce que cette grand-mère et cette mère catholique avaient, si l'on peut dire, coupé la tradition juive chez les Montaigne? En tout cas, il ne semble pas que le problème se soit jamais posé chez les Montaigne. Antoinette était catholique comme son mari Pierre de Montaigne, et les enfants ont été élevés dans le catholicisme. Que Antoinette ait eu des tendances vers le protestantisme, c'est vraisemblable. Et d'ailleurs, deux des enfants d'Antoinette, de Pierre et d'Antoinette, c'est-à-dire un frère et une sœur de Montaigne, se sont réformés, ont adhéré à la réforme, ce qui ne semble d'ailleurs avoir fait aucun vrai problème à l'intérieur de la famille, ce qui est très intéressant, ce qui montre que c'était un milieu très ouvert, assez flexible, que montre aussi le fait que l'un des professeurs de Montaigne au collège de Guyenne, où il y avait beaucoup de professeurs à tendance réformée, l'un d'eux, un Écossais, George Buchanan, était lui alors assez ouvertement réformé. Il a eu pour ça des ennuis avec la haute société bordelaise. Il a dû se mettre à l'écart, se réfugier plus ou moins. Et il est, où s'est-il réfugié? Au château de Montaigne. Montaigne a retrouvé son ancien professeur du collège de Guyenne pendant quelque temps, réfugié chez son père à Montaigne. C'est dire qu'il régnait là une atmosphère très ouverte, très, très libérale. Et c'est une des raisons pour lesquelles le château de Montaigne, chez les Montaigne, on était catholique. Il n'y a jamais eu, avec un environnement assez fortement protestant, jamais eu une attaque du château de Montaigne, jusqu'à une époque où il y a eu des tensions très très vives dans la région, à Castillon notamment, le siège de Castillon, à Libourne, à Bergerac, il y a eu des problèmes de grandes tensions, à Mussidan il y a eu une vraie petite bataille. Jamais le château de Montaigne n'a été investi par les protestants. Il y avait là une sorte, on savait chez les protestants comme chez les catholiques, qu'il y avait un îlot de paix, de respect des uns et des autres à Montaigne. Donc il y a eu cette atmosphère. Alors Montaigne a été élevé dans cette idée, donc bien il y avait à prendre chez les uns et chez les autres. Montaigne lui-même aurait peut-être, et aurait même probablement été tenté par la réforme. Il trouvait la démarche de Luther, le retour aux Écritures saintes, aux Écritures anciennes, très, très respectable. Et connaissait sûrement moins Calvin que Montaigne, bien que Calvin fut beaucoup plus important dans le protestantisme français. Mais enfin, en tout cas, il aurait eu probablement tendance à respecter la démarche des réformés. D'autre part, sur le clergé catholique, il en savait assez long, et il savait à l'époque qu'il y avait beaucoup de motifs de réforme, sous une forme ou sous une autre, dans le catholicisme français. Ce pourquoi il a choisi de rester catholique, c'est qu'il était en fin de compte, tout libéral qu'il fût dans ses idées, conservateur. C'est-à-dire qu'il pensait que, quoi qu'il y ait à dire sur le catholicisme français et sur la monarchie des Valois, le reste était plus dangereux. Qu'il était contre ce qu'il appelait les nouvelletés, c'est-à-dire les changements en profondeur et les changements avec quelque violence. Il pensait que on pouvait apporter des bonnes idées neuves, mais qu'elles dérangeraient un ordre qui n'était pas fameux, mais que le reste serait plutôt pire. Qu'il fallait mieux conserver cette monarchie, qui n'avait pas de très bon roi depuis François Ier, qui avait lui-même fait de grandes bêtises, car Pavie est quand même plus lourd que Marignan. Enfin, c'était un grand roi d'une certaine façon. Il avait installé le langage, la langue française. Il avait rendu officiel par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Mais enfin, depuis, mon Dieu, Henri II avait fait quand même des guerres en Italie, pas mal de sottises. Et après, ses fils, le pauvre François II, non moins pauvre, bien que très intelligent, Charles IX avait laissé beaucoup de choses fâcheuses, dont la Saint-Barthélemy. Henri III était un personnage très intelligent et ayant beaucoup de qualités, mais très instable, sur lequel on ne pouvait pas faire confiance. Mais enfin, c'était la monarchie légitime. Il était partisan de la légitimité, en faisant beaucoup de réformes au fur et à mesure, c'est vrai, de réformes au pluriel, mais que la réforme massive, non, ça il fallait pas, il valait mieux rester encore s'en tenir aux bases même du système politico-religieux français. Pourquoi il est resté catholique et a servi et cette monarchie et cette religion du mieux qu'il a pu. Mais au point de vue religieux, alors il a été donc indubitablement un catholique. Il allait à la messe, il y avait une chapelle sous sa chambre, il avait même fait aménager une petite, plusieurs d'entre vous ont visité le château, on voit bien que de sa chambre, il pouvait entendre la messe de sa chambre, ce qui est une façon un peu commode de pratiquer le catholicisme. Enfin, il avait une vision assez commode, en effet, du catholicisme. C'est une des raisons pour lesquelles Pascal l'a si violemment, qu'il admirait beaucoup, mais l'a si violemment dénoncé, ce catholicisme commode, où on peut entendre la messe du fond de son lit. Franchement, c'était pas très pascalien. Alors, il était donc un catholique de commodité, si l'on peut dire. Était-il vraiment chrétien ? Je crois qu'on peut distinguer l'un de l'autre et un certain nombre de grands écrivains français, de Chateaubriand à Charles Maurras ou à Maurice Barrès, ont fait la distinction. En effet, le catholicisme, c'est une structure très forte. Le christianisme, ça c'est tout plus compliqué, c'est plus compliqué. Bon, il vaut mieux pour être bon catholique être chrétien, mais enfin, bon, on peut distinguer, quoi. Et donc Montaigne, catholique de tradition, après tout, quand il va en Italie, il veut être reçu par le pape, et il fait même un long crochet pour aller à Notre-Dame de Lorette, où il dépose un ex-voto, signé Michel de Montaigne, Gallus Vasco, français de Gascogne. Il est donc catholique, assez traditionnel, mais quand même un catholique d'une espèce bien bizarre, ou un chrétien en tout cas d'une espèce bien bizarre, parce que si on lit les essais, on s'aperçoit que le nom de Jésus n'y apparaît jamais. Quand même assez singulier, un chrétien qui cite à longueur de page Socrate, Alexandre, Jules César, Épictète, Sénèque, Plutarque, et jamais Jésus, sur lequel est fondée, pour autant qu'on sache, la religion chrétienne. C'est franchement bizarre. J'ai commis cette imprudence d'écrire dans mon livre, mais c'est un livre très contestable d'un bout à l'autre, bien entendu, que je dirais que Montaigne est un chrétien qui aurait remplacé Jésus par Socrate. Et je à dire qu'on peut je suis sûr que de savants lecteurs ou professeurs ou théologiens, y compris mes amis théologiens jésuites, mais qui ont l'esprit tellement merveilleusement large qu'ils me comprendront peut-être, mais ou m'excuseront peut-être. Mais c'est vrai que Socrate apparaît tout le temps comme le sage suprême et jamais Jésus. Alors, Socrate, c'est très 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 bien, et puis il y a beaucoup de théologiens qui ont plus ou moins intégré Socrate à la religion chrétienne. C'est vrai, d'une certaine façon, il est un précurseur. Il y a des textes proprement pré-évangéliques dans Socrate, bien entendu. Mais enfin, c'est tout de même pas tout à fait ça, quoi. Et puis, il y a un autre élément qui fait la bizarrerie du christianisme de Montaigne, c'est qu'il parle très souvent de la mort, très souvent, et très très bien, magnifiquement, avec une sagesse, un courage, jamais de la vie éternelle, jamais, c'est-à-dire qu'il parle de la mort. La mort, c'est dur à la mort, la souffrance et la mort, comment affronter la mort? Mais il dit jamais ce qui viendra après. Jamais, jamais. Il ne dit, mais de toute façon, ben, même si c'est très douloureux, c'est très pénible à affronter, bon, après, on est dans les bras du Seigneur. Enfin, on a une petite chance, comme... Comme on vous interroge à l'émission de Pivot, après, qu'est-ce que va vous dire Dieu ? Jamais il ne vous demande, il ne se demande ce que pourrait lui dire Dieu le soir où il arrive au paradis. Jamais, dit d'ailleurs, il ne parle de, pas plus de l'enfer. Heureusement, d'ailleurs, c'est pas son style. Mais enfin, il aurait pu parler un peu de sorte de paradis. Enfin, de ce qu'il il parle quelquefois du paradis des Grecs, comme ça, ou du peut-être paradis des Romains. Mais, ou même peut-être du paradis d'Allah, d'ailleurs, je ne sais quoi. Mais en tout cas, jamais du paradis, ni de la, ni des autres hypothèses post-mortem. Non, non, il n'en parle jamais. Alors, voilà, ça fait un chrétien d'une espèce un peu bizarre. Moi, on parle à longueur de page, à longueur de d'une façon magnifique, certains, y compris mon cher André Gide, du scepticisme de Montaigne. Moi, je trouve pas que Montaigne soit tellement sceptique. Il croit à beaucoup de choses. Il passe tout au crible de l'analyse. Et en cela, d'ailleurs, Pascal lui rendait hommage en disant on peut être pyrrhonien, c'est-à-dire pratiquer les techniques du scepticisme, s'interroger sur tout, mais à condition d'aboutir à quelque chose. Alors, Montaigne, il pratique les techniques du pyrrhonisme ou du scepticisme. Et quand on visite le château de Montaigne, la librairie de Montaigne, on voit en effet sur le plafond de son les poutres les inscriptions sur les poutres de sa librairie. Et en effet, il y a une grande majorité d'inscriptions qui sont « Que sais-je »« Qu'est-ce qui est bien ?»« Qu'est-ce qui est mal ?»« Que croire ?» des citations d'auteurs anciens qui en effet rendent un son assez peu chrétien. Sinon, alors des références à l'Ecclésiaste aussi, c'est vrai. Oui, mais enfin, en général, qui rendent un son assez sur le thème général de que sais-je. Mais non, mais il sait beaucoup de choses, Montaigne. Il n'est pas, il croit à beaucoup de choses sur le plan moral, même sur le plan philosophique. Beaucoup, d'ailleurs, il y a trois citations de saint Paul qui ne passe pas pour un auteur spécialement sceptique. Mais enfin, c'est vrai qu'elles sont dominées par une plus grande quantité de citations, de références à des philosophes de l'Antiquité. C'est vrai, notamment Sextus Empiricus. Enfin, bon. Mais je trouve que la sonorité générale des essais n'est pas sceptique. Ce n'est pas un livre sceptique. C'est un livre de croyances fortes, mais pas très précisément chrétienne. Voilà ce que l'on peut dire. Il croit en beaucoup de choses, mais qui implique un certain nombre de doctrines chrétiennes. Il ne se prononce pas contre les doctrines chrétiennes, pas du tout. Mais enfin, il pose beaucoup de questions. Voilà, il pose plus de questions qu'il n'y répond. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un bon catholique. C'est un étrange chrétien.
Une subtilité de détermination. Jean Couture, moi, j'aurais voulu qu'on parle peut-être des femmes, la relation avec sa mère, son mariage, mais c'est peut-être, il vaut peut-être mieux partir en voyage tout de suite.
Moi, j'aime bien parler des femmes. Il aurait aimé qu'on en parle là.
Et ben alors, parlez-en.
Allons-y. Non, alors, rapport de Montaigne avec les femmes, c'est extrêmement compliqué. D'abord parce que c'est un homme qui n'a pas aimé sa mère et que sa mère a détesté. Ce qui n'est pas très courant, qui d'ailleurs peut expliquer un certain nombre de déséquilibres chez lui, une certaine angoisse, une certaine mélancolie. Le fait d'avoir ce type de relation avec sa mère, c'est très étrange. Moi, j'ai essayé de me reporter à un certain nombre d'auteurs de la littérature française. On vous objecte Jules Renard, c'est-à-dire Poil de Carotte. On vous objecte Feu Bazin, Hervé Bazin, c'est vrai, Folcoche, oui. C'est d'une autre nature, c'est pas aussi violent, c'est pas aussi tendu. Mais tout de même, bon, référence une fois aux essais. Antoinette n'est citée que deux fois dans les essais, alors que le père, Pierre, est cité très souvent avec beaucoup d'éloges, bien qu'il y ait quelques références à l'avarice des pères, qui venait bien sûr de relations précises. En fait, monsieur et madame de Montaigne ont envoyé Montaigne assez jeune à Paris avec une bourse assez ronde, et il en a fait usage pour s'amuser beaucoup. Qui va nous ramener tout à l'heure au chapitre des femmes en général, mais c'est vrai qu'il a été un prodigue, un enfant prodigue, plus que prodige, c'est vrai, prodigue d'abord, et que Pierre de Montaigne était un homme qui considérait les fins de mois, enfin qui était un excellent gestionnaire de son domaine, qui a élargi et fait profiter son domaine. Bon, et qui n'a pas aimé beaucoup la façon dont son fils a dilapidé ses biens à Paris alors qu'il voulait le lancer à la cour. Bon, il s'est plutôt lancé, je ne dirais pas dans les maisons de passe, pas tellement, c'était pas son affaire, mais enfin il a vécu une joyeuse vie à Paris, quoi, voilà. Et quand il est rentré, son père l'a rappelé de Paris et il n'avait pas eu démarré la grande carrière politique qu'attendait son fils à la cour et ailleurs. Et alors, ben, comme ça a été dit à un certain nombre d'entre nous, bon, ben, tu reviens à Paris et tu fais ton droit. Hein. Bon, alors à Bordeaux, je veux dire, et tu fais. Bon, alors il a fait son droit, en effet, sans joie, apparemment. Peut-être un peu à Toulouse, peut-être un peu à Bordeaux, revenu à Paris pour le faire. Enfin, bon. Mais ça n'a pas très bien marché. Mais si le père de Montaigne a mal pris ça, la mère l'a très mal pris. Parce qu'Antoinette, qui était une femme sûrement intelligente et qui a été une magnifique administratrice du domaine, était assez avare, et il y a eu un conflit là qui ressemble à celui entre les pères de Molière et les enfants chez Molière. Il y a un point de vue qui rappelle Molière, comme d'ailleurs les relations avec les médecins. Je dirais même que Montaigne est plus encore plus sévère pour les médecins que l'a été ultérieurement Molière. Mais enfin, donc il y a eu une tension avec sa mère qui a pris un caractère très très violent, le fait qu'il y a eu deux testaments de Montaigne, de Pierre de Montaigne visant Michel. Le premier, déshérité purement et simplement, et donné à Madame de Montaigne la haute main sur les biens de Michel après la mort de Pierre. C'est quand même assez singulier, assez bizarre. Et là, il y a évidemment, on peut voir, sans joie aucune, pourquoi c'est pas agréable de dire des choses comme ça à l'égard d'un grand homme et à l'égard d'une femme qui avait plein de mérites, bien entendu. Mais enfin, bon, ça s'est très mal passé entre eux. Alors, une excellente montaigniste, historienne de Montaigne et de la famille de Montaigne, Françoise Charpentier, parle de haine entre Michel et sa mère. Enfin, haine, le mot est peut-être un peu fort, mais nous avons entre nos mains des textes, de notamment une sorte de traité de non-agression passé entre Michel et sa mère au moment de la mort de Pierre, du père, qui est un traité extraordinaire, qui fait penser aux textes qui sont tant bien que mal signés entre les Serbes et les Croates, quoi. C'est-à-dire que on a le droit de s'avancer jusqu'à tel endroit, pas jusqu'à tel autre. Un morceau du potager où Antoinette peut entrer, Michel ne peut entrer que dans telle autre partie du potager. Tel arbre appartient à l'un et tel appartient à l'autre. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et alors, ça se faisait peut-être à l'époque, je ne sais pas, moi j'ai pas beaucoup étudié les rapports des familles au XVIe siècle, sûrement les bons XVIe-mistes, peut-être que mon amie Anne-Marie Cocula pourrait me reprendre sur ce point, et le fera à l'occasion, dans un bel article, j'espère, hein, dans un tel ou tel article, mais enfin en tout cas, moi ça m'a stupéfié quand j'ai lu ça. Alors voilà un rapport, le premier rapport d'un homme avec les femmes, que celui qu'il a avec sa mère, n'a pas été bon. Alors ensuite, il y a les rapports avec les dames en général. Un jeune homme, un jeune Gascon arrivant, d'abord vivant en Gascogne, jeune, il nous dit que, pardonnez-moi le mot, mais enfin par rapport au pucelage, il n'a aucun souvenir de cela. C'est arrivé si tôt qu'il n'en a aucun souvenir. Ah, vraiment, sûrement bien beaucoup avant son mariage, je ne pense pas avant sa première communion, mais enfin, en tout cas, le fait est que ça fait qu'il a eu une assez longue pratique des jeunes personnes de la région de Montaigne. Alors, on sait que à Mussidan, il a eu, à quel âge, je ne sais pas savoir, mais qu'à Mussidan, il y a eu une liaison qui s'est plus ou moins prolongée à Mussidan, mais enfin, sans préjudice de Libourne ou de Bergerac ou de la région, qui est une région très belle et où les femmes ne sont pas moins belles qu'ailleurs. Alors, il a eu sur ce plan-là, en effet, une vie très agitée, mais et qui s'est prolongée à Paris après, où il nous dit quand même qu'il n'aimait pas les amours. Il le dit sur un autre ton, les amours tarifés. En tout cas, il n'est pas de cela. Il nous rappelle qu'il a eu quelques atteintes sur le plan vénérien, n'est-ce pas, qui ont peut-être laissé des traces, peut-être que sa calvitie très précoce, peut-être que le fait que sur les 6 enfants qu'il a eu, 5 sont morts en très bas âge. Enfin, tout ça, on a beaucoup discuté là-dessus. Bon, en tout cas, ce qui est frappant, cela, ce n'est pas que ce jeune homme ait vécu une vie prémaritale très active, se mariant à plus de 30 ans après avec Françoise de la Chassaigne, qui était fille et petite-fille de magistrat bordelais. Donc il s'est marié, si on peut dire, dans le milieu, tout à fait, un mariage plus ou moins arrangé par les parents, les uns de côté et d'autre. Et il a fait un bon mariage avec Françoise, c'est un bon mariage. Et il dit lui-même, alors là, dans le chapitre du mariage, il nous dit lui-même qu'au fond, il a été plus fidèle à sa femme qu'il ne lui avait promis, qu'il se l'était promis à lui-même, n'est-ce pas? Ce qui est, bon Dieu, bien. Mais il dit aussi que les rapports de mariage doivent relever plutôt de l'amitié que de l'amour. Bon, c'était en effet assez pratiqué en son temps. C'est vrai que les rapports de mariage étaient en effet plutôt des mariages arrangés, qu'il importait de s'entendre bien et d'avoir plutôt du respect ou de bonnes relations l'un pour l'autre, que la passion n'arrangeait pas les choses, que c'était pas une bonne chose. Il y a là-dessus de très jolis textes de Montaigne lui-même qui ont beaucoup plus de saveur que ceux que je pourrais citer de mémoire. Donc, mariage plutôt heureux. Il a été, il s'est bien entendu avec Françoise. Il s'est un petit peu ennuyé avec elle. Le voyage, le grand voyage qu'il entreprend en 1580, au bout de 13 ans ou 14 ans de mariage, est un peu un mariage. Il a cette très jolie phrase là, vous savez, nous nous marions pas pour rester constamment accointés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et une femme peut avoir peut-être le plaisir à voir le dos de son mari aussi bien que le devant, n'est-ce pas? Ce qui indique donc de prendre le large et de montrer son dos à sa femme est une certaine forme de sagesse maritale. Bon, c'est son point de vue, c'est un point de vue d'époque, c'est vrai, d'une certaine façon. Ce qui est très remarquable, et même si je suis un peu inconvenant de le dire, c'est quand même tout à fait fascinant dans un des chapitres où il parle très ouvertement, avec une verdeur un peu moins grande que celle de Brantôme, parce que lui nomme les dames, mais enfin un peu moins grande et moins inconvenante, c'est qu'il dit, il y a de longues pages sur le plaisir en amour, le plaisir dont il parle avec certaine crudité. Il dit en tout cas qu'il n'est de plaisir respectable et vrai que entièrement partagé. Ce qui n'était pas très courant à cette époque où les messieurs considéraient qu'après tout c'était le leur qui comptait et pas l'autre. Eh bien lui défend justement le partage dans ce domaine. C'est le point sur lequel il est le plus novateur, le plus moderne, le plus d'avant-garde, si on peut dire, dans ce domaine, c'est cette question du plaisir qui me paraît, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'érotisme au XVIe siècle, mais enfin, je le deviendrai volontiers parce que c'est très intéressant, mais je n'ai peut-être plus beaucoup de temps pour cela. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui est presque aussi neuf que sa vision de la justice, de la façon de rendre la justice, ou de sa façon des rapports avec les peuples d'outre-mer, les supposés cannibales ou les supposés sauvages, etc., sur lequel il y a des pages célèbres qui ont été très longuement analysées. Celles dont je viens de parler sont beaucoup moins étudiées et mériteraient de l'être, puisque maintenant, comme il disait, pourquoi aurions-nous honte de parler de l'acte qui nous fait ? Nous parlons à longueur de journée des guerres, des violences, des coups de poignard, ça nous en parlons à longueur de journée. Nous ne parlerions pas de l'acte qui nous fait. Pourquoi ? en effet. Alors, voilà, c'est des allusions rapides qui viennent d'y être faites. Mais je voudrais ajouter, je suis interminable, je ne laisse pas la parole à mon ami Guy Perraudeau.
J'ai rien à dire.
Mais je voudrais ajouter, vous avez sûrement à dire, mais enfin, ou à redire, mais ce qui est frappant dans la vie de cet homme qui a donc beaucoup aimé les femmes, c'est qu'il n'y a aucun nom ne ressort de tout cela. Aucun nom. C'est un homme, et alors c'est le dire, c'est plutôt à son honneur, car en dehors de sa femme, et d'amitié qu'il a eue pour certaines femmes, dont la grande Corisande, Diane d'Andouin, qui a été longtemps la maîtresse de son ami Henri de Navarre, catholique, qui partageait la vie d'un calviniste très déterminé, qui a bien essayé de convertir son royal amant, mais il n'y est pas parvenu. C'est plus tard, après la rupture entre Diane et Henri, que s'est passée la chose. Mais Montaigne a été l'ami de Diane d'Andouin, mais je crois, ne serait-ce que parce qu'elle était, elle partageait la vie d'un homme qu'il aimait beaucoup. Non, il n'y a certainement rien passé entre Corisande et Michel de Montaigne, et il a eu d'autres amis, dont des dames bordelaises ou touchant de près à Bordeaux, mais on n'a aucune indication précise que fût allé au-delà de l'amitié. Les femmes dont il a partagé la vie ou la passion à tel ou tel moment, et qui le décrit la façon pour lui de vivre les passions, mais jamais un nom ne vient. Il avait une certaine c'était un gentilhomme. Les gentilshommes de ce temps, à commencer par Brantôme, ne se gênaient pas pour aligner le nom de leur conquête. Lui, il s'est gardé de cela, si bien qu'on ne peut associer, si on peut associer à la vie de Montaigne une grande amitié qui est celle d'Étienne de la Boétie, on ne peut pas associer, comme dans la vie de Ronsard ou de bien des écrivains français, civils, militaires ou religieux, le nom d'une grande dame. Il n'y en a pas, et encore une fois, il y a eu de nombreuses liaisons, mais ce qu'on cherche, y compris un écrivain bien connu à Bordeaux, qui est Nicolaï, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là. Nicolaï a écrit un très beau livre sur les belles amies de Montaigne. Bon, les belles amies, mais enfin, non pas les belles amantes. Les belles amantes de Montaigne, ça ne va pas jusque-là. Il permet de poser quelques questions que j'ai posées avec un peu plus de précision que lui, parce que l'âge est dans, enfin, les... Bon, j'ai posé peut-être plus des questions plus pressantes que Nicolaï, mais j'en suis resté aux questions et jamais aux réponses.
Jean Lacouture, Montaigne à cheval, c'est faire référence à ce fameux voyage que Montaigne va entreprendre depuis le nord de la France, l'Allemagne, l'Italie, qu'il va visiter. Alors, quand on est un Montaigne, on a de l'argent. Quand on a de l'argent, on voyage en carrosse. Quand on voyage en carrosse avec une belle équipée, et vous réduisez, entre guillemets, le voyage de Montaigne à cheval. Alors pourquoi ne pas prendre carrosse quand on est un Montaigne pour faire ce voyage, et pourquoi entreprendre ce voyage? Quelle est la finalité de ce voyage?
Alors d'abord, le cheval et le choix du moyen de locomotion, si l'on peut dire, c'est que pour Montaigne, le cheval, c'est beaucoup plus qu'un moyen de locomotion. C'est le moyen de locomotion qu'il choisit, de toute façon, quand il va, comme très souvent, entre Bordeaux ou Montaigne et Paris. Et je cite en exergue de mon livre la très belle phrase d'Albert Thibaudet, que j'aime particulièrement, que je pense le meilleur auteur sur Montaigne en général. Thibaudet disait Le grand chemin de la France, c'est celui qui lie la Gascogne à Paris. Il avait quelques mérites puisqu'il était lui-même bourguignon. Enfin, donc il ne tenait pas à vendre les caisses, les productions de ses amis de Dijon ou de Beaune. Et quoi qu'on puisse faire la route entre Bordeaux et Paris et boire du Bourgogne, bien entendu, c'est pas la question. Mais le fait est que Montaigne aimait le cheval. Il n'aimait pas beaucoup les exercices physiques en général. Il n'y réussissait pas, il y était maladroit, à la danse, à l'épée, tout cela, il le dit très gentiment, il le dit très bien avec beaucoup de modestie, mais il dit non, l'équitation je l'ai bien pratiquée. Il trouvait qu'il avait des bonnes qualités, bien qu'il fût les jambes un peu courtes, il pratiquait bien l'équitation, il aimait le cheval beaucoup, beaucoup, C'était une façon de se présenter devant les dames, c'est vrai, le cheval, ça se faisait beaucoup, bien sûr, ça fait partie de cela. Mais il aimait beaucoup l'équitation, qu'il pratiquait bien. Il écrit dans les essais, à un moment, que s'il avait pu choisir sa destinée, son mode de vie, il aurait choisi de la passer toute sa vie le cul sur la selle. Il le dit très clairement, et donc gardons cela. J'ai pris, c'est aussi une des phrases que j'ai mises en exergue de mon livre. En effet, il aimait, il se trouvait bien à cheval pour multiples raisons. Il dit qu'il y méditait à son aise, que la marche, qu'il aille à l'amble ou au trot ou au galop, je sais quoi, le permettait de bien méditer, ce qui était assez important pour lui. Qu'il n'écrivait bien d'ailleurs qu'en mouvement. On croit qu'il devait, ou bien il dictait dans sa librairie de Montaigne, ou bien il marchait, puis se mettait à son bureau, puis remarchait. Enfin, le mouvement était lié à la marche de sa pensée, et à cheval, il méditait bien. Aussi, cette idée, cette réalité, plutôt que, comme beaucoup le savent, il était malade de la gravelle ou de la pierre, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les coliques néphrétiques, et que pour certains qui souffrent de cette maladie, les chevaux et formes peu indiquées, eh bien lui, ça lui réussissait. Il souffrait moins de ses coliques à cheval, le mouvement de la selle, ou je ne sais quoi. Enfin, ça lui convenait bien. Et voilà, il faisait des journées de 10 heures de cheval par jour. Et il lui arrivait, pendant ce long voyage, où les pierres ont joué un rôle important, eh bien, quelquefois, après, il relâchait une pierre, après ce long voyage. Enfin, bon, n'entrons pas dans des détails médicaux, sur lesquels je ne suis pas très compétent, bien que j'ai eu l'occasion de savoir ce que c'est que les coliques néphrétiques. Mais enfin, voilà, il y a dans ce voyage qu'il entreprend en 1580, depuis Montaigne, Paris, Plombières, où il y avait des Paris, où il voit Henri III, où il remet le première édition des deux volumes, le premier volume des essais à Henri III, qui lui en fait grand compliment avant de l'avoir lu, mais enfin, c'est très bien. Et ensuite, il va participer au siège de l'affaire. Il aimait bien l'atmosphère de la guerre, on peut parler de la poudre déjà, en tout cas, quelques charges à cheval. Enfin, il va aussi. Puis après, il va à Plombières, où il y a des bains déjà fameux. À Plombières, et puis après il va vers la Suisse, où il va encore au bain de Baden en Suisse, Bâle, Baden, et puis après il va en Allemagne, et puis après le Tyrol, l'Italie, et là en Italie, il va surtout au bain fameux de Lucca, à la Villa, où il va passer longtemps, et c'est là qu'il apprend, à la Villa, qu'il est désigné ou élu, comme on veut, maire de Bordeaux. Bon, alors ça fait ce très grand voyage, pourquoi le fait-il? Alors, je viens de le dire un peu, il va en partie se soigner. C'est vrai qu'il y a de ça. Il est à ce moment-là malade depuis 3 ans. Il est allé déjà à Barbotan, à Bagnères, dans nos bains aquitains ou gascons. Il en a éprouvé quelques satisfactions, mais enfin, on lui a dit qu'à Plombières, c'est plus efficace, et puis en Italie. Bon, alors, il y a une partie de cet aspect médical qu'on aperçoit de plus en plus constamment quand on lit le journal de voyage, qui a été retrouvé 2 siècles après la mort de Montaigne par un ingénieux chanoine qui s'appelait Prunis, au château de Montaigne. C'est un texte qui avait été abandonné là, et ce chanoine, en faisant des recherches dans le château de Montaigne, est tombé sur ce texte, l'a lu, a vu que c'était pas l'écriture de Montaigne, mais que quand même, quoi, il est tout le monde question, alors de Montaigne, l'Allemagne, l'Italie, qu'est-ce que c'est? Et il en savait assez sur Montaigne pour être capable de voir que c'était un texte qui avait été rédigé par quelqu'un d'autre, mais qui mettait constamment Montaigne en scène. C'était le journal de voyage dont on croyait qu'il avait disparu depuis longtemps. Bref, et alors, dans ce journal, Montaigne parle beaucoup de la question médicale à Plombières et ailleurs, et surtout en Italie. Quand on a découvert le journal, il a été tout de suite lu par les grands lecteurs et intellectuels de l'époque, notamment d'Alembert, le co-auteur principal avec Diderot de l'encyclopédie, et d'Alembert, qui a été passionné de Montaigne et du scepticisme de Montaigne. Pour les encyclopédistes, Montaigne, c'était apparemment du pain béni. Mais d'Alembert a lu ce texte. Il a été d'abord très fâché que Montaigne, supposé être un sceptique, soit allé Notre-Dame, d'abord, visiter beaucoup les ecclésiastiques ici ou là, de quelque sorte qu'ils soient, puis soit aller à Notre-Dame de Lorette et déposer un ex-voto à Notre-Dame. C'est pas Voltaire qui aurait fait ça, ni d'Alembert, ni Diderot, bien sûr. Alors, il a été un peu déçu, puis après, il a dit, mais comment Montaigne, dans ce voyage, je vous parle tout le temps de cette histoire dégoûtante de Pierre, et de c'est dégoûtant, comment un si grand esprit, ben, Montaigne savait que le corps, ça va avec l'esprit, et que c'est pas négligeable, et que ça vaut la peine d'être traité, enfin, bon. En tout cas, et il est beaucoup question de ces histoires de Pierre, dont nous avons beaucoup de détails sur toutes ces histoires, avec quelques allusions comme le fait que dans les bains en Italie, si les messieurs veulent agrandir leur progéniture, ils n'ont qu'à laisser leur femme aller seule au bain. Bon, c'est une observation que fait Montaigne, mais enfin, je ne sais pas si lui-même a compris. Il ne me semble pas qu'en Italie, il était déjà relativement âgé, enfin, mais plus jeune. Non, genre rien. Mais enfin, en tout cas, il a donc entrepris ce voyage pour des raisons médicales, pour des raisons aussi fondamentales pour lui, qui était un homme de culture, qui avait été à l'origine un homme de culture latine, et pour qui aller aux sources de sa culture, c'est-à-dire la romanité, Rome, il avait l'impression qu'il allait non pas connaître Rome, mais retrouver Rome, qu'il connaissait Rome encore mieux que Paris, et aussi bien que Bordeaux, qu'il en connaissait les pierres, les arcs de triomphe, le forum, bien entendu, la Via Appia, et ainsi de suite. Enfin, il avait l'impression qu'il allait retrouver tout cela, et c'est bien ce qui lui est arrivé, et on a l'impression, quand il nous décrit Rome ou d'ailleurs d'autres villes italiennes, Venise, Florence, il revient sur les lieux de son enfance, et c'est très toutes ces descriptions sont très très touchantes. Et puis il y a dans ce voyage, il y a aussi un aspect extrêmement intéressant qui est celui de la religion, de la politique ou de ce qui est religieux politique, mais notamment de la religion. Il va, au cours de ce voyage, voir comment on pratique les religions ailleurs qu'en France, parce qu'il s'aperçoit qu'en France, on la pratique très mal. En tout cas, on la pratique assez mal pour qu'entre catholiques et protestants, on ne trouve pas d'autre raison, aux différences que de s'étriper, que de se livrer des vraies batailles, de s'assassiner. Et je t'assassine François de Guise et Paul Trot de Méret, et puis après, un peu plus tard, Henri de Guise, et puis l'amiral de Coligny, là, ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre catholique et protestant autrement qu'en s'étripant? Alors il visite la Suisse, notamment à Bâle, qui était une ville très libre, où des gens de différentes religions étaient d'ailleurs pas tellement catholiques et protestants, que protestants entre eux, qui posaient des problèmes très compliqués entre protestants, entre luthériens, calvinistes et zwingliens. Il y avait Alors, mais il s'aperçoit que même entre ces gens qui ne s'aiment pas beaucoup et qui se disent que les gens ne sont pas de vrais chrétiens, ils ne sont pas purs, ils ne sont pas bon, il y a toujours quelqu'un de pur, trouve toujours un plus pur pour l'épurer. Mais enfin, en tout cas, il s'aperçoit qu'il y a des relations, en tout cas pacifiques. On peut se dénoncer les uns les autres en chair, mais on ne s'étripe pas. Et il a trouvé qu'il y a, par exemple, en Allemagne, quand il va en Allemagne, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mariages mixtes. Ah, c'était bien de se marier. Bon, on a vu qu'en France, il y avait des mariages mixtes, puisqu'il y avait eu le mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois. C'était pas très bien continué et terminé, mais enfin, bon. Mais justement, là, il y a des mariages mixtes qui durent, qui vont bien. Et alors, il a trouvé qu'il y avait, dans une certaine région d'Allemagne, c'est pas partout comme ça, mais il a trouvé qu'on avait décidé que, dans les mariages mixtes, c'était le plus désireux des deux qui abandonnait sa religion. Autrement dit, je te désire, je te veux. Et ben, bon, et ben moi, je suis moins amoureuse que toi, que tu n'es amoureux. Mais alors, bon, c'est ma religion qui prévaudra. Alors l'un c'est la passion la plus grande, et l'autre, c'est la religion qui domine. C'est un, après tout, c'est un assez élégant marché. Je ne sais pas si les théologiens acceptent ce type de pratique. Moi, ça me... Je ne suis pas un chrétien très convenable. Je trouve, ça me paraît assez séduisant. Enfin, ça me paraît assez bien. Ça aurait été d'ailleurs une façon de résoudre le problème plutôt que de faire la Saint-Barthélemy. Comme il est visible que c'était Henri qui désirait plutôt Marguerite, eh ben, voilà. Alors Henri aurait pu, le plus désireux, aurait accepté la religion de Marguerite. Mais ça, c'est vrai que peut-être que l'amiral de Coligny n'aurait pas accepté ce. Enfin, bref. Voilà. En tout cas, le fait est qu'au cours de ce voyage, il il voit ainsi beaucoup de pratiques extrêmement intéressantes entre les religions. Après, il va en Italie, et là, il y a quelques déceptions par rapport au catholicisme italien, qui ne lui paraît pas, après tout, beaucoup plus respectable que beaucoup d'aspects du catholicisme français. Enfin, il voit, alors là, c'est plutôt sur la question des mœurs en Italie qu'il trouve très intéressante, que les femmes ont plutôt plus de liberté qu'en France, et puis que, par exemple, quand il est reçu, il est déjà un notoire, Montaigne. Non seulement il est monsieur de Montaigne, mais il est déjà l'auteur des essais. Alors, bon, sur très peu de gens ont lu les essais en France, encore moins en Italie, mais on sait qu'il est l'auteur d'un livre dont on parle déjà, dont parlent les gens très, très, très au courant. Alors, il est reçu, par exemple, par le grand-duc de Toscane à Florence. Et il raconte cette description avec beaucoup de charme et beaucoup de gentillesse. Il dit « Je m'aperçois que autour de la table où je suis très bien, une très bonne place, il est un peu snob, il est très content d'être bien traité, mais enfin... Et alors il a une bonne place, mais alors le grand-duc a un siège un peu plus élevé quand même. Mais ce qui est plus remarquable, c'est que la grande-duchesse a un siège plus élevé que le grand-duc. Ah, il trouve ça très bien. Il ne dit pas qu'il faudrait le faire au Louvre ou à Bordeaux. Il ne le dit pas. Mais enfin, apparemment, il le pense, plus ou moins, n'est-ce pas ? Bon, il relève des traits, comme ça, pendant ce voyage, des traits de mœurs qui lui paraissent très intéressantes. Il fait un voyage qui est très, un voyage, comme on dirait aujourd'hui, très culturel, bien qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la peinture. Bon, en Italie, là, ça nous déçoit un peu. C'est un des côtés de monsieur de Montaigne qui nous déçoit un peu. Il dit ce que décrivent les tableaux, mais il ne parle pas beaucoup de l'art des peintres. Mais dans l'art, il y a Michel-Ange, qui est déjà très connu. Alors, il dit, ah, ça, c'est de Michel-Ange. Bon, là, ça l'impressionne. Mais autrement, non, par moment, il n'a pas bien reconnu ni Botticelli, ni Uccello, ni... Enfin, bon, mais, écoutez, nul n'est parfait, hein, même Montaigne.
Quelle est l'attitude de Montaigne pendant qu'il était maire de Bordeaux et il y a eu une épidémie de peste et Montaigne, à ce moment-là, a disparu un peu de la circulation.
Alors, disons, en tout cas, certains éléments sûrs en cette affaire. Montaigne avait été réélu à la fin de 1582 pour 2 ans et son mandat expirait à la fin de juillet 85. Je n'ai pas trop compte des dates, mais en tout cas, il devait quitter son mandat à la fin de juillet 85 et son successeur était déjà désigné. C'était le maréchal de Matignon qui était déjà le lieutenant du roi dans Bordeaux et qui allait cumuler les deux fonctions, cumul des mandats, entre le rôle de lieutenant du roi, c'est-à-dire avec des fonctions largement militaires, et le rôle de maire de Bordeaux. Notons au passage que Montaigne a été maire de Bordeaux succédant à un maréchal de France, le maréchal de Biron, et a eu pour successeur un autre maréchal de France, le maréchal de Matignon. Ce qui laisse à penser que c'était un rôle qui n'était pas de tout repos, où il fallait des gens d'un certain calibre pour assurer ses responsabilités. Alors donc son mandat expire à la fin de juillet 1585. Et la peste s'est déclarée à Bordeaux au milieu de juillet 1585. Il n'était pas à Bordeaux à cette époque, il était à Montaigne, épuisé par l'exercice de sa charge au cours des 4 années précédentes. Il était allé peu avant la fin de son mandat se reposer à Montaigne, ou d'ailleurs à Montaigne et dans la région du Libournais, existaient aussi des menaces, des signes de peste. Et le fait est qu'il n'est pas rentré dans Bordeaux pour assurer la passation de pouvoir entre lui et le maréchal de Matignon pendant cette quinzaine où il était chez lui, où se manifestaient certains signes de peste. Il n'est pas rentré à Bordeaux où la peste faisait rage depuis 3 semaines à peu près, dans le courant du mois de juillet. Il n'est pas rentré à Bordeaux pour prendre les risques de contagion très grave, pour une cérémonie de caractère protocolaire, si l'on peut dire. Et il n'est pas rentré à Bordeaux alors qu'il a reçu une lettre de deux des jurats bordelais, les deux qui étaient restés sur les 6 jurats, il en est resté 2, qui lui ont envoyé une lettre, fait passer une lettre, en lui disant qu'il souhaitait que leur mère vienne à assurer la passation des pouvoirs entre lui et Matignon à la fin de juillet 85 et prennent ainsi les risques plus grands d'attraper la peste qu'ils les avaient à Montaigne même. Donc il n'a pas fui Bordeaux à l'occasion de la peste, il n'est pas revenu assumer des risques plus grands de peste. Et de ce point de vue-là, la plupart des historiens, sauf un au XIXe siècle, la plupart des historiens disent, écoutez, aucun de ceux qui ont écrit sur Montaigne, à l'époque, ne lui ont fait ce reproche. Aucun d'eux. C'est nous autres, gens du XIXe, du XXe siècle, pour lesquels la médecine, la lutte contre l'épidémie, ont pris cette importance, qui avons dénoncé Montaigne, si nous nous mettons dans le ton de l'époque, avec la culture et les idées de l'époque, ça n'a pas fait scandale. Aucun de ceux qui ont écrit sur Montaigne ne le lui ont reproché. C'est nous autres, personnages modernes, si l'on peut dire, qui le lui reprochons. Moi, je n'accepte pas cette objection parce que je trouve que Montaigne est assez grand et assez moderne. Il est tellement neuf en beaucoup de domaines, politiques, religieux, éventuellement sensuels, que nous avons le droit de le juger comme un homme en dehors de son époque, au-dessus de son époque, à beaucoup d'égards. Et alors là, il y a quelque chose qui est en effet assez troublant. Lui qui n'était pas lâche du tout, il était même assez courageux. Au moment de la mort de son ami La Boétie, qui est lui-même mort de la peste, et qui Montaigne est allé le rejoindre, dès que La Boétie est tombé malade, on ne savait pas très bien quelle maladie. Mais on a assez vite, à cause des indices qui se manifestaient, que c'était quelque chose qui ressemble à remplir à la peste et qui était contagieux. Et La Boétie lui dit lui-même, on a plusieurs récits, dont celui de Montaigne, mais on a plusieurs récits, et La Boétie lui dit lui-même, ami, retirez-vous, c'est trop dangereux. Pourquoi risqueriez-vous votre vie? Nous nous sommes dit l'essentiel, nous nous sommes dit ce qu'il fallait dire, allez, éloignez-vous de moi. Je ne peux que vous transmettre ma maladie, cela n'a pas de sens. Montaigne a tenu à rester jusqu'à la mort de La Boétie, dans la chambre de La Boétie, là où étaient les miasmes de la peste. Donc il était capable d'assumer ce risque. Bon, il a assumé dans la passion, l'amitié fervente qu'il avait pour La Boétie. C'est vrai qu'on peut courir plus de risques pour une personne humaine plutôt que pour une collectivité, c'est vrai, bien. Mais enfin, il avait été capable, au nom du stoïcisme, au nom de l'amitié, de courir ces risques. Il ne les a pas recourus, à son mandat en train de s'achever, pour la collectivité bordelaise à la fin de 1585. Moi, je ne l'en exonère pas complètement. Je dis que c'est quelque chose qui est un moins dans le portrait que je brosse de Montaigne et qui est un portrait plein d'admiration et je dirais aussi, je crois, de tendresse, bien il y a cette tache qui est un peu noire quand même. Il me semble qu'elle est un peu, qu'il y a quelque chose qui n'est pas au niveau. Il me semble qu'il a pris dans sa vie, lui, cet homme qui aimait ses aises et qui aimait sa paix plutôt, a pris tellement de risques, il n'a pas pris celui-là. Simplement, on peut dire qu'il l'aurait pris, probablement serait-il mort de la peste, ou peut-être, il y avait beaucoup de chances qu'il mourût de la peste, bien que son ami Matignon lui est revenu sur place et n'a pas attrapé la peste et resté maire de Bordeaux assez longtemps. Mais Matignon était plus jeune que lui, plutôt, peut-être plus armé, d'une santé plus solide. Enfin, ce qui est certain, c'est que s'il avait attrapé la maladie, que s'il était mort, nous n'aurions pas le troisième livre des Essais. Voilà une chose claire, c'est que nous aurions les deux premiers, qui sont déjà très beaux, mais nous n'aurions pas le troisième, qui est beaucoup plus beau. Alors, Montaigne serait moralement plus grand, mais il serait littérairement et philosophiquement moins grand. Alors voilà.
Donc, c'est un non-lieu grâce à l'avocat Jean Lacouture.
Je ne me sens pas en mesure de...
Autre question. Monsieur.
En ce qui concerne les aspects politiques et religieux du voyage en Italie, pensez-vous que Montaigne connaissait Maldonna avant la rencontre des Pyrénées? Pensez-vous que Montaigne connaissait Maldonna avant la rencontre des Pyrénées, qu'il avait par exemple rencontré? Maldonna est venu à Bordeaux en 1575. Et par ailleurs, pensez-vous qu'il était en relation épistolaire avec Félix Flatter, qui lui a consacré toute une journée à Bâle?
Sur les relations avec Plater, franchement, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas approfondi, c'est très malheureux, bien entendu. Cette question, il l'a rencontré à Bâle. Il parle de lui, il ne parle pas de lui comme quelqu'un qu'il connaissait avant. Il parle de lui comme un grand médecin qui était extrêmement cultivé, qui avait une admirable maison, admirablement ornée. Il en parle comme quelqu'un qui le rencontre pendant le voyage, un homme très notoire, un sage de cette époque, un savant de cette époque, qu'il est fier de rencontrer, chez qui il a été heureux d'être reçu, mais il n'en parle pas il n'y fait pas allusion comme ayant des relations avec lui. Et Montaigne aime bien étaler ses relations en général, surtout quand il s'agit de grands personnages. Alors là, moi j'ai l'impression que Plater, il l'a plutôt connu pendant le voyage, qu'il a admiré, mais plutôt pendant le voyage. Pour Maldonado, c'est ce fameux jésuite auquel j'ai fait allusion, Juan Maldonado, qui avait été engagé, j'allais dire, en tant qu'amateur de football, transféré par les jésuites à Paris pour être le professeur de philosophie au collège de Clermont à Paris, qui avait, je vais dire encore, fait un malheur, si l'on peut dire, marqué beaucoup de buts au collège de Clermont, à tel point qu'il a vidé la Sorbonne voisine parce que les gens allaient entendre plutôt Maldonado dit Maldona au collège de Clermont plutôt que d'entendre les professeurs de la Sorbonne. Alors, c'est quelquefois des problèmes entre le privé et le public sont quelquefois de cette nature. Mais enfin, en tout cas, à cette époque, d'ailleurs, c'était la Sorbonne qui était payante et les jésuites qui étaient gratuits. Mais enfin, donc, il y avait peut-être une raison supplémentaire pour qu'on aille plutôt entendre Maldonado que les professeurs de la Sorbonne. Mais enfin, le fait est que Montaigne n'avait pas été élève du collège de Clermont à Paris, mais il a connu Maldonado dans des circonstances extrêmement étranges. C'est que après 1772, la Saint-Barthélemy, pendant la nuit de la Saint-Barthélemy, Henri de Navarre, sous le poignard d'Henri de Guise, sous les supplications de sa femme Marguerite, a abjuré le protestantisme et s'est converti, au moins formellement, au catholicisme, ce qui lui a sauvé la vie, a été ensuite plus ou moins interné au Louvre, sous la haute direction de Catherine de Médicis, sa belle-mère, rude belle-mère. Et il a passé là 4 ans. 4 ans sous la férule de la reine Catherine, avec des gens qui ne lui étaient pas très sympathiques, notamment Henri de Guise, qui était l'organisateur principal du massacre de la Saint-Barthélemy, et Henri de Guise le balafré, qui n'a d'ailleurs balafré que plus tard, mais enfin. Henri de Guise, avait un château ailleurs, il en avait en Lorraine, mais enfin, il était souvent au Louvre. Et puis Henri de Navarre, lui, était interné au Louvre, il pouvait circuler dans Paris, il pouvait même aller à la chasse dans les environs de Paris, c'est bien à l'occasion d'une chasse, à Senlis, qu'il a pris la poudre d'escampette et a galopé jusqu'à Nérac et à Pau. 4 ans plus tard, mais en 72, il était là. Et Catherine de Médicis, dont le rôle dans la Saint-Barthélemy est probablement beaucoup moins, et moins, certainement moins terrible que ne le veut l'historiographie officielle, avait eu cette idée de réconcilier son gendre Henri de Navarre, le presque assassiné de la Saint-Barthélemy, avec l'assassin en chef Henri de Guise. Et pour cela, elle a invité au Louvre deux personnes qui ont rempli des missions, est-ce exactement au même moment, ensemble ou pas, en tout cas le jésuite Maldonado, pour enseigner le catholicisme à Henri de Navarre, qui en avait bien quelques bribes, puisque sa mère l'avait converti au calvinisme quelques années auparavant seulement. Et donc le théologien Maldonado et le charmant monsieur de Montaigne, dont on disait tant de bien, qu'il était un homme si sympathique et si charmant, qui avait des bonnes relations chez les protestants, catholiques tout de même. Et alors, sont venus à Paris ces deux personnages. Est-ce qu'ils se sont connus dans cette mission de bons offices, si l'on peut dire, qui a échoué puisqu'Henri de Navarre n'avait... Peut-être qu'Henri de Guise voulait bien pardonner à Henri de Navarre le mal qu'il lui avait fait, mais Henri de Navarre n'était pas tellement prêt à pardonner à Henri de Guise le mal qu'il avait, lui, subi, dans la... ayant échappé lui-même dans sa vie. Mais beaucoup de ses amis avaient été tués à cette occasion. Il n'avait aucune envie de pardonner à Henri de Guise. Le problème s'est reposé beaucoup plus tard, après. Mais enfin, à cette époque, en tout cas, la Saint-Barthélemy était encore toute présente. Et donc, Henri de Navarre n'a pas accepté cela. Certains récits, notamment ceux d'Agrippa d'Aubigné, grand écrivain protestant et proche compagnon d'Henri de Navarre, raconte qu'ils ont eu quand même, les deux Henri ont eu des relations assez familières à cette époque, chose curieuse. Mais enfin, en tout cas, ils ne se sont pas réconciliés, vraiment. Et puis Henri de Navarre a donc pris le large. Mais enfin, à cette occasion, il y a eu une première accointance, en tout cas, entre Michel de Montaigne et Maldona, tous les deux chargés de cette réconciliation. Puis après, ils se sont revus, en tout cas d'une façon très claire, au début du voyage de Montaigne vers l'Italie, puisque une des premières étapes de ce voyage, entre Paris et Plombières, a été, et avant Don Rémy, où Montaigne nous raconte que les descendants de Jeanne d'Arc ont été anoblis par les rois. Indirect, en tout cas, quoi, bon, pour autant que nous le sachions. Alors, il y a donc eu une escale à Épernay, non pas, peut-être le but du Champagne, je ne sais pas, mais il a rencontré Maldona, qui avait été mis à l'écart par les supérieurs de sa compagnie, parce que Maldona, qui était un grand esprit, mais enfin un esprit très agile, un de ces grands jésuites qui cherchent beaucoup, beaucoup, et qui trouvent quelquefois, avait senti le roussi. Un peu. À une certaine époque, on disait qu'il était devenu l'ami d'un certain philosophe italien qui s'appelait Socine, Livio Socine, et qui avait écrit que Dieu sûrement, Dieu bien sûr, mais la Trinité... pas tellement sûr, et qu'en tout cas Jésus était le plus admirable des êtres, mais enfin peut-être était-il plutôt un homme qu'un dieu. Alors là, Socine avait été chassé de ce... je crois qu'il était plutôt dominicain d'origine, mais enfin, cette théorie avait beaucoup intéressé, un peu trop intéressé Maldona. Alors les supérieurs des jésuites l'avaient envoyé à Épernay prendre l'air et se faire oublier pendant quelques temps, et il y a rencontré Montaigne. Il semble-t-il qu'ils ont eu beaucoup de conversations très intéressantes, et après ils se sont retrouvés à Rome, et alors là ils se sont liés avec un autre jésuite, probablement d'origine marane, qui s'appelait Toledo, et enfin bref, tout ça est plein d'intérêt. Et le fait que le père Maldona a été un ami de Montaigne, incontestablement, que Montaigne l'aimait et l'admirait beaucoup.
Une dernière question, car le temps passe très très vite. Est-ce qu'être un homme politique et un grand philosophe, en même temps, est-ce que ce n'est pas décevoir une partie de la population, de ses lecteurs ?
Parce que je ne vois pas en croire. Vous savez, de très grands écrivains ont rempli des missions... politique. Après tout, Chateaubriand a été ministre des Affaires étrangères. Il a même été le père d'une certaine guerre d'Espagne en 1823, où il a pensé qu'il ferait mieux que Napoléon. Et d'ailleurs, il a fait mieux que Napoléon, puisque les Français ont gagné cette guerre, il est vrai, sans grand dommage. Mais enfin, le fait est qu'on peut être un grand écrivain, un grand homme d'État. Lamartine a fondé la Deuxième République. Malraux a été le ministre du général de Gaulle. Et on pourrait citer beaucoup de gens comme ça. Goethe a été ministre à Weimar. Thomas More a été, pour son malheur, et ça a mal terminé, un grand homme auprès du roi Henri VIII. Non, vous savez, les grandes responsabilités politiques ne sont pas opposées à de grandes responsabilités philosophiques ou esthétiques. Non, franchement, je crois que chez les Grecs, des hommes étaient à la fois grands philosophes et grand homme d'État. Thucydide était en même temps un grand historien et un grand général. Non, je crois que on peut multiplier les tâches et... pas trop, mais les remplir avec valeur et talent de façon différente. Et la vie publique très riche d'enseignements pour la méditation, et je dirais que ce qui fait pour moi une des raisons de la supériorité du livre 3 des essais sur les deux précédents, c'est qu'entre entre le livre 2 et le livre 3, Montaigne a rempli de grandes fonctions et de grandes responsabilités politiques ou publiques, en tout cas publiques, que je crois que ça a contribué à approfondir sa méditation sur les rapports entre les hommes.
Jean Lacouture, merci infiniment pour tout ce que vous nous avez dit, surtout pour votre beau livre, et merci à vous.